après 6 albums sur Il était une fois en France, au ton difficile, à la noirceur profonde, on parle d'occupation, on se réveille tous les matins en se disant aujourd'hui c'est quoi? C'est les persécutions nazies, c'est l'occupation, c'est la résistance, c'est quoi? Enfin, à chaque fois, c'est une thématique très compliquée, très difficile. Et donc, on vit avec ce quotidien-là, qui est plaisant parce que c'est un vrai choix. Enfin, en tout cas, c'était quelque chose pour moi que je cherchais depuis très très longtemps. J'avais envie de traiter la Seconde Guerre mondiale et particulièrement de l'occupation. Mais quand même, ça pèse au bout de 6 albums. Et puis on met le couvert sur Katanga parce que la collaboration se passe bien et parce que cette Katanga est une création respective de Fabien et de moi. Donc j'étais à l'origine, contrairement à Il était une fois en France, qui est un scénario préexistant. Sur Katanga, c'était une volonté commune. Mais on retrouve aussi, encore une fois, une atmosphère encore plus noire, mais iconoclaste. Donc cette iconoclastie m'a permis aussi de bouger un petit peu les lignes, de changer un peu de ton par rapport à Il était une fois en France, mais ça restait dans une grande noirceur. Donc sorti de ces 9 albums extrêmement durs, j'avais envie de quelque chose de radicalement différent, et j'en ai fait part à mon éditeur, en lui disant, si je remets les pieds dans la bande dessinée, en tout cas le prochain album que je ferai sera dans un ton radicalement différent, que ce soit un projet personnel ou que ce soit une collaboration. Évidemment, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Mon éditeur, sachant ça, a ressorti des dossiers qui étaient sur son bureau, pas spécialement depuis très très longtemps, je crois. Mais ça fait un mois qu'il avait reçu le scénario Tannen arrive et il s'est dit, ça c'est peut-être dans l'esprit de ce que cherche Sylvain. Et heureux hasard, je l'ai lu et j'ai eu un coup de cœur absolu. Comme ça m'arrive parfois, comme ça ne m'était pas arrivé depuis Il était une fois en France, depuis 2017-2016. Voilà. Donc c'est des choix provoqués, on va dire, c'est un petit peu c'est des envies, c'est le fait de faire savoir ce qu'on attend, ce qu'on souhaite. Il faut en discuter, il faut avoir un vrai dialogue avec son éditeur, c'est une chance pour moi, j'ai un vrai dialogue avec Franck Marguin, éditeur chez Glénat, depuis très très longtemps, qui a été mon éditeur sur Il était une fois en France. Donc il me connaît bien, il connaît mes aspirations, et puis il a réussi à trouver la perle rare que Marc va vous décrire. Il va vous décrire la genèse de cette perle rare.
J'ai retrouvé les premiers fichiers qui étaient de 2003, du traitement. Un premier producteur a pris les droits, puis il a rien pu en faire, et puis je les ai récupérés, et puis j'ai poursuivi, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Ça a failli devenir un film, et puis ça n'a pas été un film. Puis quelques temps plus tard, j'ai commencé à me régaler à faire de la bande dessinée. Et j'ai commencé à me dire, mais pourquoi je ne fais pas que de la bande dessinée? Et surtout, pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt? Et puis du coup, j'ai commencé à me dire, attends, qu'est-ce que j'ai en stock? J'ai commencé à écrire des histoires originales, mais également me dire, ça, j'ai porté ce truc-là pendant des années, je crois que c'est bien. Est-ce que ça peut devenir de la BD? Donc je fais un travail d'adaptation sur Tannen arrive. Donc c'est ce que je dis pour... Alors je ne veux pas spoiler, donc si vous n'avez pas encore lu, bouchez-vous les oreilles 30 secondes. Si vous l'avez lu, vous pouvez continuer à écouter. Mais par exemple, dans la version cinéma, il n'y avait pas des animaux qui traversent l'album. Ça coûte trop cher à faire au cinéma. Tout ça a été pris en charge par le son. Et en adaptant, j'ai dit, attends, il y a graphiquement un truc à faire avec ça. Donc par exemple, ça fait partie des choses que j'ai adaptées. Et je l'ai proposé à Franck, donc notre éditeur en commun, mais sauf qu'à l'époque, il n'était pas en commun parce que Sylvain Vallée n'était même pas dans mon truc, quoi. J'ai proposé ça à Franck et c'est lui qui m'a dit, mais on pourrait le proposer à Sylvain Vallée. Moi, je vais pas dire ce que je dis d'habitude parce que ça énerve Sylvain. Sylvain Vallée, il est quand même assez probable qu'il en a rien à foutre de mes histoires. Et il m'a dit, mais non, mais je viens de lui parler, je pense, fais-moi confiance, je crois que ça peut, c'est exactement ce qu'il cherche. Bon, ok. Mais attention, parce que si Sylvain dit oui, j'ajoute une histoire. Je vais l'embêter, hein. Tout Sylvain Vallée qu'il est, hein. Il va falloir qu'on discute. Hein. Mais oui. Bon. Et du coup, en effet, Sylvain a dit oui dans le week-end, on s'est rencontrés. Et puis, moi, après, je connais Sylvain comme tout le monde le connaît. Donc, je voyais ce qu'il avait fait. Et je ne savais pas ce qu'il voulait faire. Et évidemment, cette histoire, Tannen arrive, c'est aussi de la poésie, c'est une forme de douceur, c'est de la comédie. La comédie, je n'avais pas trop de doutes parce qu'on sentait dans son trait que c'était quelque chose. Mais est-ce qu'il avait envie d'aller là-dedans? Puis je voulais un petit peu l'asticoter, quoi, etc. Et puis en fait, très rapidement, il m'a réconforté, etc. Et puis après, on a commencé à bosser. Pour les fans, puisque c'est un site spécialisé, tout le monde ne le fait pas, mais nous, on fait ça, on a fait ça, et puis je le fais à titre personnel à tous les albums, on commence par faire un storyboard de toute l'histoire. Et donc, c'est des Monsieur Patates, hein, grosso modo, avec les bulles au bon endroit quand même. Petit conseil que je donne, c'est bien de l'avoir pour les bulles avec les trucs. Non, mais c'est parce que du coup, ça aide à voir comment ça circule.
C'est la première chose à mettre en place, ouais. Les bulles.
J'ai beaucoup appris au contact de Sylvain. Je me suis dit, tant qu'à l'avoir, je vais tout lui prendre. Et du coup, on fait ça. Mais ça, par contre, c'est un travail colossal et hyper important. Parce qu'en fait, la bande dessinée, alors j'en parle un peu en amateur, parce que moi, c'est mon deuxième album. Alors, je fais mon malin comme si j'y connaissais tout, mais j'y connais rien. Mais voilà, je peux vous dire que quand on fait ça, on crée un espace-temps. On crée l'espace-temps de la bande dessinée. Comment ça va circuler, quoi, à quel moment. Alors, moi, j'écris planche à planche. Hein. Je suggère. Je dis, voilà, là, il se passe ça. Après, on tourne la page. Après, on discute de tout. Si jamais, ah, ça va, par exemple, Sylvain, il a souhaité rallonger certaines séquences en disant, on peut prendre un peu plus de temps. Et puis, on discute. Ou alors, ça, peut-être, on peut le ramasser. Et je souhaite toujours que le dessinateur ait des meilleures idées que les miennes. Après, meilleur, qu'est-ce qui est meilleur et moins bon, il faut qu'on discute. Donc, et c'est là où on s'est trouvé avec Sylvain, c'est qu'on est très attaché au sens de ce qu'on raconte. Qu'est-ce qu'on raconte? Il ne s'agit pas de faire des belles images. Donc, on a fait ce boulot-là ensemble. Ça s'est bien passé, c'est hyper agréable. Et quand vous avez fini ce truc-là, je ne dis pas que l'album est fait, parce qu'il y a encore un travail colossal, surtout pour le dessinateur, parce que moi, pendant ce temps-là, je suis en train de boire des coups avec les copains. Mais lui, il fait des crayonnés, les machins, etc. Et puis après, il dit, ah putain, ça rentre pas, machin. Après, il fait les ancrages. Et donc, on s'est rapidement entendu là-dessus. Et j'ai vite vu que, voilà, il avait l'humilité, alors que c'est quand même un mec qui a besoin de personne, l'humilité de discuter, parce que je pense que comme il y avait les mêmes scénarios, ben, il n'y a pas de raison qu'il n'aime pas discuter de ça. Et on s'est trouvé, et du coup, on a poussé le truc. Et du coup, lui-même disait, attends, est-ce qu'on pourrait pas. Ah, tac, tac. Et on a essayé de faire. Alors après, le lecteur le lira ou pas, mais vraisemblablement sur les premiers retours, ce qui est hyper, pour le moment, satisfaisant, c'est que ce qu'on a souhaité communiquer, même en le cachant, c'est-à-dire pas dans la gueule de tout le monde, mais de l'induire, de l'amener, etc. Parce que quand même, on manipule les lecteurs, hein, faut pas croire. Oui, on les amène quelque part pour leur faire pif et paf, hein, vous voyez. Et ben, c'est reçu, quoi. Et ça, c'est satisfaisant parce que après 3 ans dans notre coin, on se dit, bon, on est fou, en fait. Puis en fait, non, non, c'est bien passé.
C'est d'autant plus satisfaisant que Ta nana arrive est un récit dont les vraies valeurs, dont les vraies intentions sont cachées en fait, sont sous-jacentes derrière chaque scène. On peut avoir des scènes de comédie en apparence, très drôles, mais elles vont peser lourd dans le récit. Elles vont avoir du poids dans le parcours du personnage, dans ce que ce parcours dit de l'humain, de l'âge, de l'amitié, de toutes ces notions dont on traite dans Ta nana arrive. Mais tout ça, au travers d'une petite enquête, d'un petit enquêteur, un imperméable, d'un petit retraité, qui va essayer d'enquêter sur la vie passée de son meilleur ami décédé. Et ça, voilà, c'est une petite histoire, mais qui a une ambition folle, en fait. Et en apparence, ça peut être voilà, ça peut donner l'impression d'une distraction, alors qu'en vérité, ça fait réfléchir, mais sur énormément de choses. Et au travers de la lecture, mais encore plus au travers de la mise en scène et du travail de mise en scène qu'on a fait en commun, puis du travail de réalisation des dessins jusqu'à la couleur, j'ai petit à petit, en fait, estimé de mieux en mieux le poids de ce récit, le poids et l'envergure et l'ambition de ce récit, qui va bien au-delà de ce que peut laisser suggérer, par exemple, la couverture, voilà, qui dit quelque chose de très léger, de très simple, mais derrière cette couverture, il y a énormément de choses. C'est une ambition folle. Je crois que c'est, à mon avis, même le récit le plus ambitieux que j'ai eu à mettre en image. Je peux vous le dire. Malgré les albums que j'ai pu, dont on parlait tout à l'heure, et que j'ai pu réaliser, qui avait une ambition affichée, en fait, beaucoup plus affichée. Là, l'ambition n'est pas affichée. Et c'est encore plus délicat et encore plus subtil de mettre ça en image et en scène. Et du coup, quand l'ambition est énorme, eh ben, ça implique ce qu'on disait tout de suite, ce que Marc disait tout de suite, ça implique qu'on puisse avoir un vrai terrain de jeu commun. Et ce terrain de jeu commun, il faut le créer. Il faut le créer, donc il faut laisser la porte ouverte au scénariste, comme Marc m'a laissé sa porte ouverte quand je lui ai fait des propositions de scénario, enfin d'adaptation, de mise en scène, de séquences, parfois un dialogue en plus, parfois un petit jeu narratif en plus, ou effectivement prendre quatre planches de plus pour une scène qui se résumait à une seule planche. C'est arrivé et c'est ça qui permet de se dire, de peser ensemble, finalement, l'ambition de notre sujet. Et Marc le connaissait très bien puisqu'il l'a écrit. Mais moi, je l'ai découvert finalement petit à petit, en lui donnant forme, en fait. Je sentais bien toutes ces intentions-là cachées, la poésie, tout ça, l'ambition du truc, dont je parlais tout de suite. Mais c'est vraiment en le réalisant, en fait, en mettant les mains dans la matière, qu'on prend la mesure et le poids de ce qu'on est en train de faire. C'est parfois, pour un dessinateur, très compliqué d'anticiper finalement ce par où il va passer quand il va mettre en scène un album. Il a une intention générale, il a une vision générale, qui est celle partiellement du scénariste, et qui est partiellement la sienne, évidemment, en tant que dessinateur, mais c'est très compliqué. C'est en fait quand l'album est quasiment terminé qu'on connaît le poids réel d'un sujet et son ambition, dans les moindres détails. C'est assez intéressant et assez étonnant cet aspect-là des choses.
J'en profite pour faire une petite anecdote qui est en relation avec ce que vient de dire Sylvain. Récemment, là, j'ai trouvé un dessinateur sur Instagram. Ça m'arrive, je regarde des amateurs. Hein. Putain, je vois un mec, j'aimais bien son travail. Et donc, je lui ai écrit et je lui propose. J'ai dit, j'aimerais bien faire un truc avec toi. Donc, je lui propose quelque chose, mais qui était trop long. Il m'a dit, non, mais moi, je suis prof. J'ai 23 ans, je suis prof, je ne peux pas faire ça. Donc, je lui ai dit, bah, je t'écris un truc un peu plus petit. Donc, je lui ai écrit un truc plus court. Puis pendant des mois, je pense, il fantasme sur ce que je lui ai pitché. Mais moi, j'ai pitché un truc un peu en vitesse parce qu'en fait, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et je l'ai fait et je l'ai fini par lui envoyer. Et il n'a pas aimé. Donc là, j'étais vexé comme un pou. J'ai fait lui dire, attends, mais tu sais à qui tu parles? Je bosse avec Sylvain Vallée, moi, mon gars. Attention. Hein. Mais évidemment, je n'ai pas dit ça. J'ai ravalé ma truc et j'ai dit, bon, ok. Bah, écoute, je vais t'écrire autre chose. Pas de problème. Je suis un peu déçu, je ne te cache pas. Mais... dis donc, je comprends pas où tu veux en venir, etc. Je dis bon, d'accord. Par contre, ce qu'on va faire, si tu veux bien, pour apprendre à mieux se connaître, je vais te demander de dessiner 2-3 planches quand même de ce truc-là. Juste comme ça, on commence à échanger autour de ce truc-là parce que je l'ai fait. Bon, bah, 3 jours après, il m'a envoyé 10 planches. Il m'a dit putain, ça y est, je commence à comprendre, je suis en train de le faire.
C'est ce que je disais, mais dans l'exemple le plus condensé et raccourci qui soit. Mais effectivement, c'est cet aspect-là. Et on a beau sentir l'ambition commune, on a beau sentir qu'effectivement, il y a une intention générale. Et vraiment, c'est en le réalisant. Et je vous dis, ça va jusqu'aux couleurs en termes émotionnels. Il y a des émotions sous-tendues dans le scénario. Alors après, on lit entre les lignes, on est capable de les lire tout de suite, tout de suite ses intentions, ses émotions entre lignes, ou alors on met un peu de temps pour le faire. Ou alors il faut effectivement se mettre à l'ouvrage pour s'en rendre compte. Mais ça peut aller jusqu'à la couleur aussi. Quand le coloriste ou la coloriste intervient, là il y a une dimension émotionnelle qui peut être supérieure encore. C'est une intervention, c'est un outil supplémentaire, enfin, un médium supplémentaire qui vient s'ajouter à ce qu'on a mis en place. Et donc ça peut aller jusqu'au bout en fait. On ne connaît absolument pas la portée des intentions qu'on met quand on est scénariste, en vérité, je pense.
Comment ça ?
Tu les soupçonnes, mais bon. Tu es incapable de savoir jusqu'où ça peut aller.
En fait, là, je vais te dire la vérité, là. Écoutez bien, c'est la vraie vérité, vraie. Mais non, mais quand tu es un scénariste, quand tu es en début de chaîne, tu as quand même, enfin, en petite personne, tu as beaucoup d'idées claires ce que tu veux faire, mais ce que tu veux, en fait, c'est qu'à chaque fois, à chaque étape, ceux qui sont derrière toi vont valoriser ce que tu as fait et le fassent monter en puissance. Et il n'y a rien de plus désolant quand c'est l'inverse. Par exemple, quand on fait de la comédie et qu'à chaque étape, c'est un peu moins pur, un peu moins tenu, un peu moins machin, et que tout se délaye, et qu'à la fin, on finit par dire « Ouais, mais le scénario n'était pas terrible, en fait. » Tu dis « Comment ça n'était pas terrible ?» Et donc, quand Sylvain s'empare de ce que vous faites, tu es hyper content. Blam, tu vois les crayonnés. Blam, tu vois les ancrages. Et blam, derrière les couleurs arrivent. À chaque fois, on gagne. Mais pas, on n'aimait pas les potards à 12 au sens où ça va être... C'est pas une histoire d'en mettre plein la vue. C'est une histoire d'être juste, de presser le jus. De presser le jus du fruit jusqu'à la dernière goutte, si possible. Et ça va également jusqu'à la construction et l'élaboration de l'objet livre, le papier, la couverture, la matière de la couverture. Enfin, c'est quand même un objet, la BD. C'est sur le site de fans de BD, les gens, ils savent qu'ils les gardent. Ils les gardent précieusement, parfois sous blister dans leur machin. Donc tout ça, ça contribue, on espère, à communiquer quelque chose. Alors après, on ne va pas mettre de mots dessus. Mais...
je dirais même jusqu'à la communication autour du livre. Et là, c'est là que vous intervenez en tant que journaliste vous-même. Mais avant vous, avant que les lecteurs se l'approprient, ou par le biais de votre intermédiaire aussi, il y a aussi toute la commercialisation du livre. Comment on va véhiculer, comment on va travailler sur... qu'est-ce qu'on va dire autour du livre en tant qu'éditeur, enfin, moi, je ne suis pas éditeur, mais qu'est-ce que l'éditeur va devoir véhiculer comme message pour respecter l'intention originelle du récit, ou les intentions originelles du récit. Donc, c'est très, très particulier. Et cette chaîne-là, elle a un parcours... parfois très houleux, hein, tu le connais, moi aussi je l'ai connu. On est dans l'incertitude la plus totale tant que tout n'est pas fait en vérité. Tant qu'on n'est pas arrivé jusqu'à la dernière étape, c'est-à-dire celle de la communication autour du livre en fait. C'est pour ça que je pense que l'objet, tant que ça nous appartient à nous auteurs, tant que ce n'est pas livré chez l'éditeur, doit être mobile. On doit pouvoir travailler, retravailler les planches, changer des dialogues, peaufiner jusqu'à la livraison finale, et même du bouquin, avant que ça ne parte en imprimerie, quasiment. Et ça, c'est presque une nécessité. À cause de cette question-là, de ces notions-là, du fait de respecter finalement le fil conducteur qui a été instillé par le scénariste et que le dessinateur a su lire, comprendre et mettre en œuvre.